Nous sommes dimanche, il est 9h à Paris, 8h en temps universel et merci d'écouter RFI. Et le journal, c'est avec Martin Guez.
Et on vous souhaite une bonne journée, même une bonne semaine. Julien Coquel-Rouhem, on vous retrouve vendredi prochain aux manettes de la matinale week-end de RFI. Mais pour l'heure, les titres de l'actualité internationale. Ekrem Imamoglu sera-t-il bientôt derrière les barreaux? Un juge ordonne en tout cas ce matin l'incarcération du maire d'Istanbul, placé en détention provisoire en attente de son procès. Ekrem Imamoglu, arrêté mercredi, poursuivi pour corruption et terrorisme. Des accusations sans fondement pour l'opposant numéro 1 au président Erdogan. Des dizaines de milliers de personnes étaient dans les de la capitale économique turque pour protester contre cette arrestation. Manifestation aussi en Israël, l'opposition dans la rue qui appelle à la grève générale et au respect de l'état de droit. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui veut coûte que coûte limoger le patron de Shin Bet et qui reprend ses guerres à Gaza comme au Liban. Enfin en France, suite et fin du SIDAction ce dimanche, grande opération annuelle de collecte de fonds et de dépistage. La Turquie dans la rue pour la quatrième nuit consécutive, des dizaines de milliers de personnes à nouveau dehors, à Istanbul, notamment devant l'hôtel de ville, en soutien à Ekrem Imamoglu, le maire de la plus grande ville du pays, arrêté pour corruption et terrorisme. Des accusations immorales et sans fondement, dénonce-t-il. L'édile amené samedi soir au tribunal avec 90 co-accusés. Ekrem Imamoglu, grand rival politique du président Recep Tayyip Erdogan, favori pour être désigné candidat de son parti, le CHP, pour la présidentielle de 2028. Eh bien, un juge vient d'ordonner ce matin son incarcération à Nandlouer.
C'est une décision qui ne suscite aucune surprise, mais qui ne manquera pas de provoquer beaucoup de colère à travers la Turquie, où les opposants au pouvoir se mobilisent déjà massivement depuis 4 jours. Ekrem Imamoglu, dont le parquet avait réclamé l'incarcération, est accusé de diriger une organisation criminelle. Il est poursuivi dans le cadre de 2 enquêtes, l'une pour corruption et l'autre pour aide à un groupe terroriste, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'emprisonnement ayant été prononcé dans le cadre de la première enquête et non pour les charges de terrorisme, les autorités turques ne devraient pas mettre sous tutelle la plus grande ville du pays, dans l'espoir, peut-être, d'apaiser un peu ou de garder sous contrôle les tensions dans la rue. Le conseil municipal d'Istanbul, aux mains de l'opposition, devrait élire dans les prochains jours un nouveau maire. Tandis que les soutiens d'Ekrem Imamoglu se préparent à nouveau à manifester, les membres de son parti, le CHP, ont commencé à voter ce matin dans le cadre d'une primaire pour désigner leur candidat à la prochaine présidentielle prévue en 2028. Ekrem Imamoglu est seul en lice ce dimanche. C'est donc le candidat du plus grand parti d'opposition turque que la justice a emprisonné. Anandlouar, Istanbul, RFI.
À Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, des milliers de personnes dans la rue en Israël pour protester contre les multiples atteintes à l'état de droit dans le pays. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, qui menace même d'appeler à la grève générale si le gouvernement Netanyahou ne revient pas sur sa décision de limoger Ronen Bar, le chef du renseignement intérieur. Une décision suspendue par la Cour suprême israélienne. Les manifestants ont aussi protesté contre la reprise de la guerre à Gaza. Au moins 520 Palestiniens sont morts depuis mardi, selon la défense civile gazaoui. Des frappes aussi sur le Liban. 8 personnes sont mortes hier, selon les autorités libanaises. Des frappes en réponse à des tirs de roquettes tirés depuis le territoire libanais et interceptés par Israël. Pour Guillaume Ancel, ancien officier français, il est clair que Netanyahou a repris la guerre et sur plusieurs fronts.
Ce que nous fait Netanyahou, c'est ni plus ni moins qu'une reprise de la guerre. En fait, Donald Trump a annoncé triomphalement que c'était un président tellement puissant qu'il avait le pouvoir de stopper la guerre. C'est ce qu'il a fait le 20 janvier, sauf que pour l'Ukraine, c'est pas fait et qu'il ne l'avait fait que pour le Proche-Orient. Néanmoins, il l'avait fait pour le Proche-Orient. Il ne faut pas cacher le soulagement qu'on a eu tous que ces opérations épouvantables de dévastation cessent. Mais là, il a manifestement autorisé Benjamin Netanyahou à reprendre la guerre, et une guerre totale, puisqu'on voit que Netanyahou, ça y est, il est reparti pour aller bombarder au Liban, il bombarde tous les jours d'une manière absolument atroce la bande de Gaza, et en plus, il a de nouveau étouffé l'aide humanitaire, qui est juste un crime contre l'humanité, puisqu'on sait très bien que l'aide humanitaire, elle est destinée aux personnes les plus fragiles, et donc c'est à eux qu'il s'en prend dans cette guerre. Donc pour moi, ce qu'il fait relève très clairement du crime contre l'humanité.
Et propos recueillis par Anne Bernas, l'armée israélienne qui appelle par ailleurs ce matin la population à évacuer un quartier de Rafah dans le sud de la bande de Gaza et qui dit avoir lancé une offensive. Toute l'actualité du Proche-Orient à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. RFI, les 8h04 à Ouagadougou, de nouvelles vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Des vidéos de massacres de civils, et ce alors que la justice a ouvert une enquête, notamment après les appels au meurtre sur les réseaux contre des personnes de la communauté Peul. Après la publication de ces nouvelles vidéos, le gouvernement dénonce, lui, des manipulations et une vaste campagne politico-médiatique pour dénigrer le pays. François Mazet.
Ces nouvelles vidéos montrent des civils escortés par des individus armés vers une destination inconnue. Les personnes âgées et les enfants qui n'arrivent pas à suivre sont menacés avec des armes blanches. D'autres montrent aussi des corps sans vie de civils. Elles sont présentées comme un massacre commis dans la commune de Gayeri, dans la région de l'Est. Dans un communiqué réagissant à ces vidéos, le gouvernement dit déplorer la persistance d'individus mal intentionnés qui s'activent, selon lui, au montage de vidéos mensongères faisant croire à des massacres ethniques au Burkina Faso. Il dénonce une manipulation qui, selon lui, s'inscrirait dans le cadre d'une vaste campagne politico-médiatique de diabolisation et de dénigrement. L'objectif, selon son porte-parole, serait de prêcher la montée des communautarismes et de déclencher des affrontements intercommunautaires. Jeudi, le procureur Blaise Bazier disait avoir ouvert une enquête en vue d'interpeller les auteurs de messages appelant à l'extermination de personnes appartenant à un groupe ethnique au motif que ces personnes seraient des terroristes. Il ne citait pas de groupe ethnique spécifique, mais les populations peules sont souvent visées par des amalgames.
Et à la suite de ce communiqué du gouvernement, le procureur a lancé un appel à témoins pour aider les enquêteurs à interpeller les auteurs ou les complices d'appels à la haine. Le Niger, sous le choc, 3 jours de deuil ont été décrétés alors que 44 personnes ont été tuées lors d'une attaque terroriste dans l'ouest du pays. Attaque vendredi dans la région de Tillabéri, les djihadistes qui ont encerclé la mosquée du village de Fambita avant d'ouvrir le feu, un attentat de représailles alors que l'armée nigérienne a multiplié ces derniers jours des opérations contre l'État islamique au Sahel. Au Soudan, nouvelle avancée de l'armée. Après la reprise du palais présidentiel, les hommes du général Al-Bourhan ont repris la banque centrale. Et en riposte, les paramilitaires des FSR ont bombardé Omdurman, faisant 3 morts ce matin, des civils dont 2 enfants. Sur le front de la guerre en Ukraine, Kiev visé par des tirs de drones russes cette nuit. Une attaque massive, selon le maire Vitali Klitschko, au moins 2 morts et de gros dégâts dans la capitale ukrainienne. Attaque qui intervient alors que la Russie doit rencontrer les États-Unis ce lundi en Arabie Saoudite. Moscou qui dit aborder ses négociations dans un état d'esprit combatif et constructif. En France, à présent, suite et fin du SIDAction ce dimanche, grande opération annuelle de collecte de fonds pour lutter contre le VIH. L'occasion aussi de rappeler qu'il est toujours bon de se faire dépister. Certains le découvrent très tardivement, comme Geneviève Grisper, âgée de 41 ans. Elle a découvert il y a 10 ans qu'elle était séropositive.
Quand j'ai récupéré les résultats, ça m'a fait un choc. J'ai fondu en larmes. Ça m'a pris 2 ans pour pouvoir l'accepter. En fait, pourquoi je pleurais autant? Parce que le VIH, il est considéré comme si c'était ta vie qui avait basculé. Puis j'avais aucune information sur le VIH. Je ne savais pas que la médecine avait évolué. On pouvait se marier, on pouvait avoir des enfants bien portants. Du coup, pour moi, c'est mon monde qui s'effondrait. Je me suis tout de suite fait prendre en charge. J'ai été mise sur traitement à trithérapie directe. Hein. J'ai été suivie aussi psychologiquement. Les médecins m'ont beaucoup rassurée. Au bout de 3 mois de traitement, j'ai eu une charge virale indétectable. Quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le VIH. Puis j'ai vu que tout était possible. Je pouvais poursuivre mes rêves, je pouvais avoir des enfants. Et en 2017, j'ai accueilli mon premier fils qui est très bien portant. Il n'est pas infecté. J'ai continué, j'ai croisé mon mari, on s'est marié, on a eu un deuxième enfant. Donc voilà, aujourd'hui physiquement je vais super bien, mentalement je vais super bien. Donc il faut très bien prendre les médicaments tous les jours et puis on a une vie normale en fait.
Des propos recueillis au micro RFI de Valérie Cohen. Le VIH qui fait encore des ravages sur la planète. 630 000 personnes sont décédées en 2023 et un quart des malades n'ont pas accès à un traitement. Le pape François sort de l'hôpital ce dimanche et ce après 5 semaines d'hospitalisation. Le souverain pontife de 88 ans qui souffre depuis la mi-février d'une double pneumonie et qui effectuera une convalescence de moins 2 mois, c'est ce qu'annonce le Vatican. Il devrait saluer les fidèles peu après midi, hors local, au moment de sa sortie. Il s'agira de sa première apparition publique depuis le 14 février. Et puis on termine avec du football. C'est le retour de la Ligue des Nations ce soir, quart de finale retour. La France qui a 2 buts à remonter face à la Croatie après sa défaite 2-0 jeudi à Split. Un seul but à remonter pour le Portugal contre le Danemark et pour l'Italie face à l'Allemagne. Et tout reste à faire en revanche entre l'Espagne et les Pays-Bas après le match nul 2-2 du match aller. Tout reste à faire aussi pour les qualifications pour le Mondial dans la zone Afrique. 2 derniers matchs hier pour clore la 5e journée. 2 matchs nuls, 2-2 entre le Togo et la Mauritanie. 0-0 entre le Soudan et le Sénégal. Malgré 19 frappes, les Lions de Pape Thiaw qui se sont cassés les dents contre les Crocodiles du Nil. Le Soudan, surprenant leader du groupe B. Vous pourrez trouver tous ces résultats évidemment sur notre site internet www.rfi.fr à la page Afrique Foot RFI. Il est bientôt 9h10 ici à Paris. C'est la fin du journal. Excellente journée. À notre écoute.